There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Focus Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année, la radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette, with butter or marmalade?
Mois de février, mois de l'histoire des Noirs sur CUT 89,5 FM. L'héritage et le leadership des personnes noires célébraient l'histoire canadienne et inspiraient les générations futures. C'est la thématique 2025 du mois de l'histoire des Noirs cette année. Le mois de février nous donne la chance de célébrer la diversité et les réalisations des personnes noires au Canada. Cependant, c'est aussi l'occasion de réfléchir à l'histoire douloureuse du pays et aux défis particuliers auxquels les Noirs sont encore confrontés dans leur vie quotidienne, tels que les barrières systémiques, le racisme et la discrimination. Soyez des nôtres tout au long du mois de février pour des éditions inédites. Visite à vous couper le souffle au dernier festival Vaudou au Bénin. Témoignages, rencontres, découvertes littéraires, le calendrier de nos partenaires et le tout assaisonné de rythmes des musiques traditionnelles du continent et des Antilles. En partenariat avec la table ronde du mois de l'histoire des Noirs Québec, mois de l'histoire des Noirs Gatineau, Sophie Franck, Niagara, Wellen, mois du créole à Montréal, le Kepka, France 24, TV5 Monde, RFI. Le mois de l'histoire des Noirs 2025 à découvrir absolument sur popourishow.com ou www.cut.fm. CUTFM, toute la diversité du monde sur votre fréquence.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance,
Tierra de Alianza.
Terre d'Alliance
sur France Inter.
France Inter
con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes, tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça, ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Il paraît que si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre parler plus de 120 langues à la fois sur le macadam de Toronto. Pas étonnant, si l'on considère ce que nous allons pas manquer de faire pour cette dernière étape de notre tour du monde estival au sein des Alliances françaises, si l'on considère que le monde s'est donné rendez-vous à Toronto. Toronto, cette mégapole de 5 millions de citizens, est la capitale économique de l'immense Canada. Le Canada, c'est le second plus grand pays de la planète après la Russie. 10 millions de kilomètres carrés partagés par 36 millions d'habitants et autant d'élan, de caribous ou d'orignaux certainement.
Terre d'Alliance, Alexandre Hérault, sur France Inter.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutif, la langue vit, révolte, danse. Et le livre des livres et livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est un rempart à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
It's morning edition from NPR News.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebien.
Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, où que vous soyez dans le monde. DJ Devera, Eric Kader et nos nombreux correspondants et partenaires sont très heureux de vous retrouver pour la 4e émission de cette nouvelle année. Un immense merci à tous nos partenaires de ce dimanche, Batuki Music Society et l'Alliance française de Toronto, qui présentent le groupe Coup de cœur de Montréal le samedi 8 février au Théâtre Spadina à 20h. Ce concert spécial en l'honneur du mois de l'histoire des Noirs présente un rassemblement exceptionnel de chanteurs et d'instrumentistes. Préparez-vous pour une soirée inoubliable. Coup de cœur de Montréal le samedi 8 février à l'Alliance française, organisé par Batuki Music Society. Parmi les invités, les musiciens sénégalais Sadio Sissoko à la kora, aux percussions et au chant, le guitariste Hassan Sek, le chanteur Sendina Ndai, le chanteur et guitariste Agne Lam, deux joueurs de tama, Pape Ndiaye et le bassiste Carlo Biri. Un collectif de stars interprétant des chansons qui définissent les variations régionales, les styles et les mélodies des formes musicales traditionnelles et populaires d'Afrique de l'Ouest. Deux paires de billets disponibles pour les auditeurs de Popourri Show. Tous les détails sur popourrishow.com ou encore Batuki Music Society. Merci à nos amis de Batuki Music Society. 16e édition du festival Ciné Franco Jeunesse qui revient en force du 24 février au 7 mars 2025 au Cineplex Cinema Empress Walk 5095 rue Yonge à Toronto. Des films traitant de sujets d'actualité brûlants à hauteur d'enfants et d'ados. Chaque dimanche, en partenariat avec Ciné Franco et nos médias partenaires, nous vous donnerons un avant-goût de la belle programmation de Ciné Franco Jeunesse 2025. Réservez votre place en ligne pour voir un des films à l'affiche en visitant cinéfranco.com ou popourrishow.com. Et Francophonie en fait est fière de nous présenter la 4e édition de Bonjour Printemps 2025, une célébration culturelle vibrante à Toronto, avec deux spectacles exceptionnels, mettant en vedette des talents francophones de renommée internationale, Catherine Levac et Le Vent du Nord, un groupe folklorique. Tirage au sort de deux paires de billets chaque dimanche. Allez, j'attends votre message à popourri@cut.fm. Plus d'infos sur francophonieenfête.com ou popourrishow.com. Et une première sur cette antenne, collaboration spéciale entre la Tunisie et CUTFM. Toufik Abayeb, PDG, journaliste du magazine en ligne Leaders, est heureux de nous présenter Transculturalisme et Francophonie, le dernier ouvrage de notre ami de toujours, Eddy Bouraoui, professeur émérite d'université, essayiste, poète, romancier, écrivain prolifique. Transculturalisme et Francophonie d'Eddy Bouraoui, à retrouver sur notre site web, popourrishow.com. Le transculturalisme est chez lui aussi bien une théorie qu'une pratique, où il prend la force d'un véritable credo. Rester toujours digne, humble, simple et souriant. Professeur Eddy Bouraoui n'a livré ses états d'âme qu'au fil de son œuvre, palpitante, remuante, profonde. Cet ouvrage nous en offre une belle illustration. Tricontinental, trilingue et transculturel, Eddy Bouraoui, qui vit à Toronto depuis plus de 65 ans et il ne cesse de nous interpeller. Lui qui a surtout enseigné à l'Université York en Ontario et a voyagé, côtoyé les francophonies du monde, il a donné à la francophonie une expression plurielle et mis en exergue ses auteurs jadis très peu connus. Transculturalisme et francophonie d'Eddy Bouraoui aux éditions Leaders sera au cœur de nos débats lors du mois de la francophonie en mars sur CUT-FM. Plus de détails sur transculturalisme et francophonie et Toufik Abayeb, PDG du magazine en ligne Leaders, à retrouver sur popourrishow.com.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Et au menu ce dimanche 26 janvier, la fièvre du carnaval s'empare de l'île Papillon. Et oui, pour les Guadeloupéens, le carnaval a une valeur patrimoniale de premier plan, où le réel se mêle parfois au mystique. Un véritable exutoire où réunit toutes les couches sociales, abolit toutes les différences et rebat toutes les cartes en s'affranchissant de tous les tabous. Et bien sûr, on y revient aussi sur le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Toute une rafale de décrets. Face à la menace existentielle pour la démocratie que pose l'alliance entre les géants du numérique et le pouvoir politique des actions s'organise. Et oui, Gaïda Hassan, professeure au département de psychologie de l'UQAM Montréal et fondatrice du réseau des praticiens canadiens en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, vient de publier un rapport extrêmement important, utile, très intéressant, qui nous donne des pistes pour combattre la désinformation. Avant la fin de l'émission. Le monde du 7e art a perdu un géant du cinéma américain à l'influence immense. David Lynch, réalisateur d'Elephant Man, Mulholland Drive et de la série culte Twin Peaks, est mort à 18 ans la semaine dernière. On lui rend hommage. Une collaboration de France Inter et RFI. La playlist The French Collection avec Christophe Comte, nouvelle émission, un voyage musical dans l'univers d'un artiste à travers ses souvenirs, ses contemporains et influences. Une émission musicale 100% consacrée au répertoire français et francophone. Une nouveauté sur CUT-FM. Aussi parmi les autres sujets qui ont fait la manchette ou le buzz cette semaine au sein de la francophonie, une des rares librairies francophones de la région de Toronto fermera ses portes au cours des prochaines semaines. Le regroupement des éditeurs franco-canadiens tire sur la sonnette d'alarme. La colère monte à la suite de la décision d'Ottawa de réduire de moitié le nombre de places attribuées aux provinces de l'Atlantique en matière d'immigration. Pour plusieurs entreprises et organismes, ces travailleurs sont la clé de leur survie. Même son de cloche chez Restaurant Canada, qui parle d'un impact dévastateur pour l'industrie. Une vidéo de CBC TV, eh oui, fait le buzz sur la toile, eh oui, chez nos confrères anglophones, s'il vous plaît. Le successeur de Justin Trudeau à la tête du Parti libéral pourrait-il ne pas parler français ? Chandra Arya, candidat à la succession, a assumé ne pas parler le français, deuxième langue officielle du pays. Une allégation qui a aussitôt suscité la colère des francophones du Québec, mais aussi partout au Canada. Eh oui, la polémique remet sur la table la question de l'avenir de la langue de Molière dans le pays. Le prochain chef du Parti libéral pourrait-il ne pas parler français ? J'attends vos réactions à popourri@cut.fm. Une surprise vous y attend.
Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International, installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtels, hébergements chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, 0590 91 72 10 et Paris 09 78 80 13 19. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera toujours à votre écoute.
Guadeloupe, 10 expériences qui vous attendent. Profitez des plages de Guadeloupe. Qui dit archipel des Caraïbes pense plage idyllique. Et la Guadeloupe en compte de nombreuses. Parfaite pour pratiquer l'activité principale de l'île, le farniente. Celle de Grande Anse est l'une des plus belles, entourée de hautes collines coiffées de forêts. Sainte-Anne peut également se targuer de posséder quelques-unes des plages les plus enchanteresses de Guadeloupe, avec son lagon turquoise, ses cocotiers et son sable fin.
Immergez-vous dans l'histoire et l'ambiance du carnaval guadeloupéen et faites-le plein d'énergie. Quelle est l'histoire des carnavals des Antilles ? Envie de découvrir la Guadeloupe ? Hors des sentiers battus ? Alors vous êtes au bon endroit, madame, monsieur, attachez vos ceintures. Faites-le plein d'énergie. Top départ, une présentation de Popourri Show, CUT 89,5 FM. On vous aime comme vous êtes. Allez, je vous laisse avec Tijan. L'histoire de la Guadeloupe. À toi le micro.
L'histoire du carnaval débute en Guadeloupe avec les colons catholiques. C'était une fête défouloir avant la période de carême, qui était une période de privation. D'ailleurs, le mot carnaval a pour origine un mot italien qui veut dire sans viande. Donc le carnaval était pratiqué au début par les colons qui s'amusaient, qui se déguisaient entre eux sur les plantations. Et les esclaves, par mimétisme, se sont mis également à pratiquer et à fêter le carnaval à leur manière, en y intégrant leurs costumes, leur musique, des instruments comme par exemple le tambour. D'ailleurs, c'était une occasion pour eux de tourner en dérision leur maître. Et c'était toléré à cette époque. Cependant, les esclaves ne pouvaient pas s'éloigner du périmètre de la plantation. Ce n'est uniquement qu'à partir de l'abolition de l'esclavage que les esclaves ont pu et que les nouveaux habitants et les esclaves affranchis ont pu pratiquer cette activité en public. Et de fait, cette activité s'est institutionnalisée dans la société. Aujourd'hui, le carnaval débute le premier dimanche du mois de janvier et se termine le mardi gras et le mercredi décembre, à peu près mi-février. Voilà une petite histoire brève du carnaval en Guadeloupe. Maintenant, j'aurais aimé vous partager avec vous les temps forts d'un défilé qu'il y a eu ici l'année dernière à Capesterre, à l'allée du manoir. J'espère que vous allez apprécier ce moment.
En février, vivez le carnaval en live avec la Fédé et Orange. Samedi 4, la parade nocturne à Petit-Bourg. Dimanche 5, la parade de Pointe-Noire. Dimanche 12, la parade chaud-bouillante à Bouillante. Lundi gras, la parade nocturne lumineuse. Mardi gras, la giga parade winner. Le carnaval en live, c'est avec la ville de Petit-Bourg, la ville de Pointe-Noire, la ville de Bouillante, la ville de Basse-Terre, McDonald's, Peugeot, Eurorepa, tvcarnaval.fr et tv97.net.
Jamais la avancé. Hey, mi mas la arrivé. Mi mas la. Mi mas la arrivé. Mi mas la. Ça c'est pas tapé des sacs. Mi mas la. Ça c'est mon la crier. Mi mas la. On veut pas de la violence, on veut sauter.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89.5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
Et à ceux et celles qui ne peuvent participer aux festivités du carnaval des Antilles, notre partenaire Francophonie en Fête vous convie très chaleureusement à la 4e édition de Bonjour Printemps dans le cadre du mois de la francophonie au mois de mars. Une célébration culturelle vibrante au cœur de la ville de Toronto. Deux dates importantes à retenir. Le 21 mars, l'humoriste Catherine Levac sera sur scène avec son spectacle « L'homme de ma vie ». Le 27 mars, pour clôturer le mois de la francophonie de Toronto, le Vent du Nord présentera son spectacle « 20 printemps ». Le groupe folk traditionnel célèbre deux décennies de musique invitant leurs spectateurs à un voyage sonore dans le riche patrimoine québécois. Francophonie en fait offre deux paires de billets aux auditeurs de Popourri Show. Tirage au sort chaque semaine. C'est très simple, pour gagner vos billets, il faut absolument nous envoyer un message à popourri@cut.fm. Bonjour printemps de Francophonie en fête pour célébrer la francophonie d'ici et d'ailleurs sur CUT 89,5 FM, la radio des musiques du monde. Et pour vous donner le goût de la fête et de la programmation de Francophonie en fête à Bonjour Printemps, en voici un extrait.
Roger à côté.
Viens ici, nous, ma soeur, habite de Javel.
Maudit hostie vierge de giboire, de calice, d'hostie de Saint-Simonac, ça se peut-tu, un enfant de même? Quand t'as une tête de mort sur une bouteille, tu touches pas à ça, ta crème.
C'est
un
montage. Roger, c'est gros occupé de grand-papa quand il est au
centre. Ça, on est pas bien bien occupé. Il est mort.
Tu trouves une nouvelle job, finalement?
Un café 2-2.
Et moi, un grilled cheese bacon.
C'est déjà comment un grilled cheese. T'es perdu, là?
Moi! C'est normal, ma fille.
Pourquoi tu fais passer les journaux?
Parce que je veux que mon père arrête de travailler. Comme ça, il va être heureux.
Au combat et à la victoire!
Mais l'argent fait pas le bonheur.
C'est juste les pauvres qui disent ça, maman.
Parce que tu penses qu'on est pauvres?
On peut pas dire qu'on est riche.
Mon père!
Ouais, tu fais de fort. Fais ce job-là.
Ça donne bien. Je suis comme la petite mousquetaire. Et bien courageuse, tu sais, comme moi.
Jusqu'en bas de la côte.
Non, en bas de la côte, c'est un autre monde.
Essaye de pas finir toutes tes phrases par mon petit nom.
C'est à cause de Roger.
Oh, mais moi pas là-dedans. C'est vrai ce que ton père dit, puis supposé croire que tout le monde est beau, que tout le monde est fin. Parce que le bonheur, ça se force pas sur quelqu'un qui en veut pas.
C'est ça que ça sert, Léon. À nous motiver à être comme nous.
Ma mère aime pas bien ben gros le monde qui sac comme toi.
Ben c'est ta mère, ta basse-lac, c'est pas la mienne.
Marcelle Lynn, fondatrice de Cine Franco, nous invite à nous réchauffer le cœur avec une très belle programmation Cine Franco Jeunesse, édition 2025, du 24 février au 7 mars.
Marche arrière toute. L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, mais pour lutter contre le changement climatique, ne comptez plus sur les États-Unis. Donald Trump engage donc la sortie de son pays de l'accord de Paris sur le climat. C'est même l'un des tout premiers décrets que le nouveau président américain a signé hier soir,
peine investi. C'était devant ses partisans réunis dans une grande salle de Washington. Étienne Monin, c'est un changement à 180 degrés. Priorité désormais à l'exploitation d'hydrocarbures.
C'est un peu l'histoire qui se répète. Donald Trump avait déjà retiré son pays des négociations climatiques lors de son premier mandat. L'accord de Paris avait survécu. Mais cette fois, il y a un risque d'entraînement et les États-Unis vont encore renforcer leur addiction aux énergies fossiles d'après le nouveau président qui déclare l'état d'urgence énergétique. Ce décret va permettre d'assouplir les normes environnementales et les restrictions d'exportation pour faire chuter les coûts de l'énergie, dit Donald Trump, et enrichir les Américains avec cet or liquide qui coule sous leurs pieds.
On va faire chuter les prix. On va à nouveau remplir nos réserves stratégiques et à ras-bord. Et on va exporter l'énergie américaine dans le monde entier.
Le nouveau président compte aussi protéger l'avenir des voitures thermiques et mettre un coup d'arrêt au Green Deal qui vise à accélérer la transition énergétique des États-Unis.
Sortie de l'accord de Paris qui mettra toutefois une année à s'appliquer, mais aussi, et c'était peut-être là moins attendu, retrait engagé de l'Organisation mondiale de la santé. Sur le plan diplomatique encore, Donald Trump lève les sanctions contre des colons israéliens accusés de violence contre des Palestiniens et il doute que la trêve à Gaza tienne longtemps. Le reste du monde vu comme une menace contre laquelle il faut se protéger. Elle est incarnée chez Trump notamment par la figure du migrant, la lutte contre l'immigration clandestine, priorité du nouveau président, avec là aussi Isabelle Labéry, des premières décisions entérinées dès cette nuit.
Première mesure, déclarer l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. Un gros dossier, reconnaît lui-même Donald Trump, qui peut désormais déployer l'armée pour empêcher le passage des illégaux. Autre décret signé hier soir, la remise en cause du droit du sol, selon lequel toute personne née aux États-Unis se voit automatiquement accordée la citoyenneté américaine. Ridicule, dit le nouveau président, qui le raye d'un trait de plume. Or, il n'est pas dit que ce droit puisse être modifié par un simple décret. Donc, il y aura des contestations judiciaires. Les États sont prêts, certains ont même mis de l'argent de côté pour ça. Pas d'annonce, en revanche, sur les expulsions massives de clandestins, mais les villes sanctuaires comme Los Angeles, New York ou Chicago, qui refusent de coopérer en matière d'immigration avec les autorités fédérales, se préparent à subir ce plan que le pape François lui-même a qualifié de calamité. Washington, Isabelle Labéry, France Inter.
Des migrants peut-être bientôt renvoyés quand les assaillants du Capitole vont eux sortir de prison pour les 1500 personnes condamnées après le 6 janvier 2021. Tout est pardonné, grâce présidentielle massive. Enfin, toujours sur le plan intérieur, l'offensive trumpiste contre les transgenres est confirmée. Il n'y a que deux sexes aux États-Unis, masculin et féminin, affirme un décret présidentiel pris cette nuit. Quand un autre texte met fin à tout programme de diversité et d'inclusion au sein du gouvernement fédéral. Pas de décret signé ni de décision formellement entérinée en revanche concernant les tarifs douaniers, mais une menace qui se précise. Mexique et Canada pourraient se voir infliger des droits de douane à 25% dès le 1er février. Ascenseur émotionnel à Ottawa où quelques heures plus tôt on se satisfaisait de ne pas avoir été cité pendant le discours d'investiture. Pascal Guéricola, le gouvernement canadien a promptement réagi cette nuit.
Pour la ministre des Affaires étrangères, il faut défendre les intérêts des Canadiens et défendre les emplois. Mélanie Joly a rappelé que cela passait par la protection de la frontière, pour laquelle son gouvernement a prévu d'investir un budget d'1 milliard d'euros environ. Un peu plus tôt dans la soirée, le président Donald Trump accusait pourtant le Canada d'abuser des États-Unis en laissant passer trop de gens et de la drogue comme le fentanyl. Et il entend donc imposer 25% sur les biens provenant de ce pays. Le gouvernement canadien espère encore renverser cette décision. S'il n'y parvient pas, il pourrait taxer à son tour des produits américains comme le jus d'orange de Floride ou le bourbon, un whisky de l'État du Kentucky. Des mesures concernant l'imposition d'autres biens américains font aussi partie de la possible réplique canadienne.
Pascal Guéricola au Canada pour Inter. Et pour les autres grandes puissances, eh bien c'est plus flou. La Chine est pour l'instant ménagée. Trump évoque simplement une discussion à venir avec son homologue chinois. L'Union européenne est-elle dans le viseur? Mais ça passera soit par des droits de douane, soit par l'obligation, dit Trump, d'acheter du pétrole américain, ce que les Européens font déjà.
Et oui, c'était un reportage de France Inter. Vous écoutez Pot Pourri Chaud, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Donald Trump a multiplié les décisions qui ont frappé l'imaginaire lundi dernier, jour de son investiture. Il a annulé 78 mesures mises en place par le président Biden, entre autres. La riposte s'organise. Ce sera une longue marche dans le désert durant les prochains 4 ans. Les membres de la communauté trans et des centaines d'avocats à la défense des droits des immigrants ont déjà déposé des plaintes contre le gouvernement Trump. Mais ce qui a choqué, pas seulement les démocrates, mais son geste, gracier 1500 Américains dangereux qui ont pris part aux événements du 6 janvier, des émeutes du 6 janvier 2021. Fidèle à son style de politique spectacle des 8 dernières années, il a terminé la séance en lançant des stylos utilisés à la foule, tel une rockstar. La menace du président des États-Unis, Donald Trump, d'imposer des tarifs douaniers de 25% sur tous les produits canadiens se précise. Cette épée de Damoclès pourrait tomber sur l'économie canadienne à partir du 1er février. Mais selon Justin Trudeau, Donald Trump aura besoin du Canada pour son âge d'or. Fin de citation.
France Inter. On l'a appris il y a quelques minutes, la mort de David Lynch, géant du cinéma, à 78 ans, sa famille l'annonce, réalisateur, auteur, scénariste américain. Il est notamment l'auteur des mythiques Blue Velvet, Elephant Man, Lost Highway, Mulholland Drive ou encore la série télé Twin Peaks. David Lynch avait reçu la Palme d'Or en 1990 à Cannes pour Sailor et Lula, ses premiers mots en recevant son prix.
To the great Bernardo Bertolucci. And the rest of the beautiful jury, to Mr. Gilles Jacob, thank you from the bottom of my heart. I've been trying to get to the Cannes Film Festival for 20 years. I can't believe what's happening. It's a true dream come true. Thank you very much.
David Lynch, très ému et qui remercie le jury de Cannes, présidé à l'époque par Bernardo Bertolucci et Gilles Jacob, son délégué général. Le réalisateur avait aussi reçu un Lion d'Or d'honneur à Venise en 2006. Il avait annoncé l'été dernier souffrir d'une maladie pulmonaire. Il est donc décédé à l'âge de 78 ans.
Hommage à David Lynch, décédé le 16 janvier 2025. À l'annonce de sa mort, les chaînes de télé en France ont bousculé leur programme pour lui rendre hommage et nous permettre de replonger dans son univers énigmatique et sa puissance créatrice. Chacun des films de David Lynch a un jalon dans l'histoire du cinéma. Explorateur des rêves et souvent des cauchemars, créateur d'une esthétique unique qui désormais inspire un grand nombre d'artistes. Lynch, dont l'œuvre s'étend au-delà du cinéma, dans les arts plastiques, le théâtre et la musique, n'est plus, mais il est partout. Parmi nos invités, Bertrand Mandico, cinéaste, Gisèle Vienne, chorégraphe, plasticienne et metteuse en scène, Yael Sadat, journaliste et critique de cinéma. Une présentation de France Inter.
France Culture.
This is Cole. Yes, I hear you. What do you mean, trouble?
Daft Punk anger.
But it is Laura Palmer.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Et le thème de Twin Peaks, évidemment signé Angelo Badalamenti, à tout seigneur, tout honneur. Nous vous proposons une émission spéciale David Lynch. Le réalisateur nous a quittés hier soir, il avait 78 ans. Une immense perte, évidemment, pour le cinéma et pour les spectateurs, surtout que nous sommes. On va revenir sur son œuvre, son cinéma, son univers. Et pour évoquer David Lynch, nos invités, Bertrand Mandico, cinéaste et plasticien, bonjour.
Bonjour.
Yael Sadat, journaliste et critique au Cahier du cinéma, bonjour.
Bonjour.
Et Gisèle Vienne, metteuse en scène et plasticienne, vous êtes à distance, vous êtes en répétition, bonjour Gisèle.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les trois. Nous voilà donc dans un monde où David Lynch n'est pas. Elephant Man, Blue Velvet, Sailor et Lula, Lost Highway, Mulholland Drive, chacun de ces 10 longs métrages a été un jalon dans l'histoire du cinéma. Explorateur des rêves, souvent des cauchemars, créateur d'une esthétique unique qui désormais inspire un grand nombre d'artistes. Lynch n'est plus, mais il est partout. Alors avant d'en parler avec vous, mes invités, je vous propose d'écouter David Lynch, la voix de David Lynch. Il s'exprimait en 2001 sur le fait justement de parler de ses propres films.
You know, a film, since it's complete, in my mind, nothing should be talked about more.
Vous savez, un film, à partir du moment où il est achevé, pour moi, il n'y a plus rien à en dire. Et je trouve ça vraiment dommage que, lorsque quelque chose est terminé, on vous demande de le traduire par des mots. Parce que ça ne fonctionnera jamais. On ne pourra jamais traduire par des mots ce qu'est le film. Certains films peuvent avoir des thèmes, mais même s'il y a un thème, ça sera un thème différent pour chacune des personnes qui aura vu le film. Donc c'est mieux de laisser les gens développer leurs propres idées après avoir vu le film et en avoir fait l'expérience.
Alors voilà, nous on va commencer comme ça, on va parler des films à la place de David Lynch et je voudrais tout simplement savoir quelle expérience les uns et les autres vous avez vécu avec les films de David Lynch, Bertrand Mandicot par exemple.
Vous parliez tout à l'heure d'une filmographie qui a jalonné comme ça plusieurs époques. Moi, j'ai eu la chance de découvrir Elephant Man en VHS. Donc, Lynch, c'est quelqu'un qui m'a accompagné tout au long de ma vie. Donc, pour moi, c'est faire le deuil de cet accompagnement égoïstement, parce que c'était très important, ce phare qu'est David Lynch. C'était vraiment mon guide, quoi, mon maître. Alors, j'ai des souvenirs incandescents parce que quand je suis allé voir Blue Velvet, j'étais un peu jeune pour aller le voir dans un cinéma d'une station balnéaire où j'avais traîné mon père en lui faisant croire que c'était un film, un polar, voilà. La pellicule s'est bloquée dans le projecteur pendant une crise de Dennis Hopper et le photogramme a brûlé. Ça a été très très marquant pour moi. Donc pour moi, Lynch, c'est
feu sur la pellicule.
Voilà, c'est le cinéaste incandescent.
Ouais. Yael Sada.
Oui, moi j'ai découvert avec Mulholland Drive et ça a été en fait un choc évidemment, mais qui m'a appris quelque chose sur la notion de sens. C'est-à-dire que mon premier réflexe en tant que jeune cinéphile en devenir a été de décortiquer le film, d'essayer de l'analyser, de comprendre, etc. Et puis j'ai en fait renoncé assez vite parce que ce que j'ai compris que ce que faisait Lynch, c'était creuser en fait une brèche non seulement dans le réel du film, mais dans l'histoire du cinéma et dans notre compréhension de ce qu'est la réalité, et qu'il fallait simplement accepter de s'engouffrer dedans, voilà. Mmh. Et d'ailleurs, bah là, en disparaissant, c'est une béance tragique et très difficile pour les gens qui aiment son cinéma et pour beaucoup de gens donc, mais c'est ce que son cinéma a toujours fait, creuser des béances, creuser des brèches comme ça.
Gisèle Vienne, votre expérience avec les films de David Lynch?
Mon expérience, c'est que il fait partie des artistes qui inventent vraiment des langages qui nous permettent de parler le monde autrement, de le comprendre autrement. C'est-à-dire qu'il fait partie de ces artistes que je chéris immensément, qui questionnent et déplacent les cadres perceptifs. Mmh. Et effectivement, quand j'ai découvert les films de Lynch, je me suis dit, le monde ressemble, de mon point de vue, le monde ressemble plus aux films de Lynch qu'au reste de l'industrie hollywoodienne et aux films de Clint Eastwood. Mmh. Et effectivement, c'est un rapport au réel et à la réalité, et qui définit ce qui fait réel et réalité. Et bien sûr, c'est un rapport au doute, c'est un rapport aux différents types de perceptions. C'est-à-dire, il y a aussi des clashs formels dans ces films. Donc voilà, pour moi, c'est effectivement une manière de questionner la perception du monde, et qu'effectivement, il est mêlé de choses que l'on comprend plus ou moins de différentes manières, plutôt que, enfin moi ça me fait penser vraiment à l'histoire du roman critiqué notamment par Rob Grier. C'est-à-dire que je pense que l'industrie hollywoodienne et le cinéma mainstream restent dans des formes de narration qui ressemblent au roman de Balzac du 19e siècle, qui est très 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 vieux, normatif et réactionnaire dans sa manière de raconter. Et Lynch fait partie de ces quelques réalisateurs qui vont effectivement chambouler, comme par exemple ont pu le faire les auteurs du nouveau roman, d'un point de vue formel, vont questionner, déplacer nos cadres perceptifs, et c'est révolutionnaire.
Mmh. Et s'il y a un film, le premier film que vous avez vu par exemple de David Lynch,
Je crois que c'est soit c'est Sailor Eula, soit c'est Eraserhead.
Ah, le tout premier. Ouais.
Je crois que c'est Eraserhead et que en fait j'étais avec mon frère et lui voulait voir genre je sais pas comment ça s'appelait genre je sais pas une espèce de comédie avec je sais plus qui une espèce de comédie française absolument rebutante et moi je voulais voir ça et je l'ai obligé à aller voir Eraserhead et on s'est super fâché après ça et moi j'étais hyper heureuse d'avoir eu ce film.
C'était un petit peu violent peut-être pour lui. Bertrand Mandicot, quand on dit aujourd'hui qu'une œuvre est lynchienne, c'est devenu vraiment un adjectif maintenant. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire à votre sens?
Il y a la notion d'étrangeté et de part dans l'œuvre qu'on ne peut pas comprendre vraiment ou pouvoir analyser justement qui n'a pas de prise avec l'analyse. Ce qui est fascinant avec Lynch, c'est que c'est quelqu'un qui dans l'intuition quand il fait ses films, hein, il n'intellectualise pas ce qu'il est en train de faire, il ressent le monde et il va nous donner à voir le monde tel qu'il le reçoit en mettant en scène ses doutes, ses peurs et en ouvrant une porte vers un autre monde. Et donc l'œuvre lynchienne, c'est ça, c'est l'œuvre qui s'ouvre à un autre monde et qui gardera sa part de mystère. Après, c'est devenu aussi un adjectif un peu fourre-tout. Mais l'œuvre lynchienne, pour moi, il n'y a que Lynch qui puisse faire des œuvres lynchiennes, hein, en réalité.
Alors, bon, 10 films, c'est pas énorme en vrai. 10 films, finalement, il n'a pas inondé le monde de ses films. Mais effectivement, on vient de citer Eraserhead, son premier film, c'est en 76, je crois. De Eraserhead à Inland Empire, quels sont les grands thèmes qu'on retrouve dans le cinéma de Lynch, Yael Sada?
Bah, je parlais d'ouvrir une brèche dans le réel, et c'est vrai que je sais pas si on peut parler réellement de thème, parce que même David Lynch lui-même ne parlait pas de son cinéma en termes de sujet particulier. Mm-hmm. Par exemple, pour Mulholland Drive, il dit, j'ai simplement eu la vision d'une femme qui était égarée dans Los Angeles. J'ai compris plus tard que c'était un film sur Hollywood. On pourrait dire que c'est d'abord des paysages comme ça, des situations, et notamment ce paysage américain, cette banalité américaine qui revient sans cesse et qu'on a appris à voir autrement avec ses films parce que on ne peut plus du tout la regarder comme quelque chose justement de banal, cette espèce de trivialité, vous savez, des restos-routes, des endroits à la Twin Peaks évidemment, parce qu'on a parlé des films, mais il y a aussi les séries, il y a plusieurs projets télévisuels, il y a plein de choses chez Lynch, c'est très multiforme, mais effectivement dans Twin Peaks ou autre, on a cette ou Blue Velvet, cette américanité qui tout à coup nous paraît à la fois extrêmement familière et extrêmement inquiétante. On a parlé effectivement d'étrangeté, Bertrand, c'est ça, c'est l'idée d'une étrangeté familière. C'est l'inquiétante étrangeté, mais c'est aussi le bonheur d'être inquiet en regardant une tasse de café ou bien en s'émerveillant, comme dans Twin Peaks saison 3, de l'électricité qui tout à coup, le personnage redécouvre l'électricité. Enfin, on a l'impression que Lynch s'émerveille et s'inquiète de la possibilité qu'on puisse vivre dans un monde connecté. Enfin, c'est des idées très libres comme ça qui nous font revoir l'Amérique autrement.
Alors, on va écouter un extrait d'Elephant Man, qui est sans doute le film où Lynch a rencontré, on va dire, le grand public. C'est un film de 1980.
Notez, je vous prie, l'extrême hypertrophie du crâne, l'invalidité complète du bras droit et la cambrure inquiétante de la colonne vertébrale. Tournez-le, s'il vous plaît.
Tournez-vous, s'il vous plaît.
La peau est flasque et présente des tumeurs fibreuses qui recouvrent le corps à 90%. Ah, détail intéressant, en dépit de toutes les difformités mentionnées, les parties génitales du patient sont intactes et normales. Ainsi, chers confrères, et en regard des faits observés, exostos congénital de la boîte crânienne, papillome géant, hypertrophie marquée du membre supérieur droit et de son ossature, importante distorsion de la tête, disproportion du corps, recouvert de papillomes géants, on a surnommé le sujet l'homme éléphant.
Elephant Man, David Lynch, 1980, Bertrand Mandicot, ce film en noir et blanc, je l'ai dit, c'est là qu'il rencontre le grand public. Est-ce qu'en germe, il y a dedans le David Lynch de Blue Velvet et des suivants?
C'est l'histoire du film est très particulière parce qu'il fait juste avant Eraserhead, qui est un long métrage expérimental qu'il fait dans le cadre de son école. Il est étudiant en cinéma expérimental. Et Eraserhead devient un film culte. Il rentre dans les séances de minuit. Les gens ont vu le film, ont été marqués par ce qu'ils ont vu et entendu. C'est un film qui c'est une proposition esthétique absolument délirante par rapport à l'époque. On est, en même temps, il y a Star Wars qui sort. Enfin, pour faire comme ça un parallèle. Et il y a un homme qui s'appelle Mel Brook, qui est connu pour ses films burlesques, qui a le très bon goût d'aller chercher David Lynch et de lui proposer de réaliser Elephant Man. Donc c'est un film de commande. Il comprend... donc Mel Brook, qui est toujours vivant, qui a 98 ans en ce moment, a cette idée géniale d'aller chercher ce cinéaste expérimental et lui proposer de faire un film grand public avec sa sensibilité. Et donc Lynch va déployer tout son univers et en même temps s'adapter au sujet dans cette Angleterre victorienne avec ce personnage qui est un fric, qui est un monstre, mais qui va rendre extrêmement tendre, extrêmement doux. Enfin, on est vraiment dans un film ultra sensible et c'est ça qui est merveilleux avec Elephant Man. C'est à la fois l'ultra sensibilité de Lynch et toujours l'inquiétude, le mal qui rôde, voilà. Ce film contient, comme tous les films de Lynch, hein, ses obsessions.
Yael Sada.
Oui, c'est vrai que la notion de la question du mal est présente, c'est-à-dire qu'il y a une lutte effectivement. C'est pas même si lui se gardait bien de parler de ses films en termes politiques, il y a un affrontement comme ça, une lutte parfois même au sein d'un même personnage. Le dédoublement encore une fois dans Twin Peaks, le personnage de l'agent Cooper qui va se dédoubler, le fait de se voir autre et de s'entendre parler à l'envers, ce qui est un motif qui revient chez lui. Et je pense que voilà, il y a une conflictualité, mais elle est jamais politique, jamais facilement, on peut jamais l'établir comme en termes de polarisation, de conflit ou voilà.
Gisèle Vienne, pour parler de l'univers et de l'esthétique de David Lynch, est-ce qu'il a pu vous, d'une certaine façon, vous inspirer, vous marquer, vous influencer?
Oui, moi j'ai envie de dire, en fait, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est le fait que ça fasse partie des gens qui inventent vraiment des langages, qui a un travail formel très spécifique, et effectivement qui va parler, faire parler, écouter le monde autrement, ça c'est super politique en fait. Il y a et ça passe par, pour moi, des choses qui sont, enfin, et oui, évidemment, j'ai une grande passion pour Dale Cooper. Et Dale Cooper, il fait quand même 3 saisons plus un Firewalk With Me. Et pour moi, il y a quand même des choses qui sont, enfin, très claires, qui croisent certainement aussi la pratique de David Lynch de la méditation, c'est-à-dire c'est quoi l'expérience du réel, c'est quoi l'expérience du présent. Et quand Dale Cooper arrive dans Twin Peaks, il interroge les évidences, il arrive comme un étranger et il a effectivement, c'est vraiment cette autre personne qui arrive dans le monde et qui va remettre en question toutes les évidences, qui va les interroger et qui va retourner les habitudes perceptives et les évidences perceptives. Donc ça me semble être extrêmement fort. Et oui, c'est-à-dire ça se traduit aussi par, j'ai envie de dire, des collages formels avec des passages on a l'impression qu'on est dans un sitcom. Ensuite, on est dans une scène qui est complètement, on a l'impression d'être dans le rêve ou dans le cauchemar. Donc on a comme ça des clashs formels. Et ces clashs formels, ils me semblent très spécifiques à son cinéma et effectivement permettent de déplier ce qui fait l'expérience du réel, qui n'est pas une esthétique en fait. L'expérience du réel, c'est différents types, c'est le présent, le passé, le futur anticipé, c'est l'imagination, c'est le rêve, c'est quoi toutes ces strates qui font l'expérience du présent et du réel, et toutes ces strates n'ont pas une esthétique et une forme, et c'est ces clashs formels qui sont effectivement de l'image, de la matière, du son, des manières de jouer, et que je trouve dans la saison 3 Twin Peaks absolument réjouissante, qui remettent en question effectivement la manière dont va être défini le réel par le cinéma mainstream. Après, Après, voilà, je trouve que c'est, comment dire, on parle de, oui, il y a quand même des choses qui sont, enfin, il y a quand même beaucoup de thématiques, mais quand on parle de Twin Peaks et Firewalk With Me, c'est quand même trois saisons plus un long métrage au cœur duquel est une, comment dire, est menée une enquête sur une fille incestée. Mm-hmm. Donc, c'est quand même un vrai sujet. Et il le traite, donc c'est pour ça des fois j'en dis oui mystérieux et des fois non pas mystérieux, justement l'inceste serait toujours si mystérieux, ben il l'est pas du tout et je trouve qu'il l'a déplié de manière extrêmement pertinente et précise. Et ce que je voulais rebondir aussi sur la phrase de tout à l'heure, j'ai envie de dire oui c'est ressenti et c'est comme ce soir je vais présenter un film d'Ackerman où aussi j'entends Ackerman est-elle intellectuelle ou sensible. Ben non, le ressentir, c'est intellectuel en fait. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, on réfléchit à partir de la matière cinéma, on réfléchit à partir de manière artistique. On pense pas abstraitement en fait. On pense à partir du corps et des sentiments. Donc pour moi, Lynch, Ackerman, Apichatpong, Veeraseethakul, enfin tous ces gens-là sont des grands intellectuels parce qu'ils travaillent avec une extrême finesse. La question du vécu, qu'est-ce qui est vécu en fait. Pour moi, c'est aussi quand je dis composition, c'est-à-dire voilà, pour moi, le cinéma, c'est autant de la musique que de la chorégraphie, que de la peinture, que de la photographie, ça passe par aussi. Enfin, je veux dire, je trouve qu'il a un rapport à la musique qui est extrêmement fin, enfin qui est très fort. Quoi.
Il était musicien. De toute façon, on va l'entendre d'ailleurs à la fin de l'émission, l'émission qui touche bientôt à sa fin. Yael Sadat, vous l'avez rencontré en 2023. Oui. Vous êtes un des derniers à l'avoir vu. Il en était où de son rapport au cinéma? Il nous reste peu de temps, hein. Mais.
En fait, il était justement en train de. Il regrettait beaucoup de ne pas avoir les forces, en fait, de pouvoir continuer. Il aurait voulu faire une série. Il disait voilà, parce qu'une série c'est comme un fleuve, c'est-à-dire qu'on baigne tous les gens qui la regardent baignent dans le même fleuve. Il y a un rapport au temps qui est différent. Et malheureusement en fait, même s'il était à son bureau quand je l'ai vu, où il faisait encore de petites choses, des petits courts métrages, on sait qu'il aime peindre aussi. Voilà, ça restait, les choses restaient en suspens. Et il avait un projet avec Netflix dont on n'a plus une nouvelle. Il avait fait un court métrage pour Netflix qui était très bon, là où son humour ressort justement, What Did Jack Do, Café Jack avec un singe, dont il me parlait comme si c'était un acteur, donc il a un humour qui est très spécial, David Lynch aussi.
Merci beaucoup en tout cas, merci Gisèle Vienne de nous avoir accordé un peu de temps sur vos répétitions, merci Bertrand Mandico et Yael Sadat d'être venus nous parler de votre David Lynch. On se quitte d'ailleurs sur David Lynch, musicien et chanteur, avec Crazy Clown Time.
bienvenue au Festival Jeunesse à Ciné Franco 2025. Parmi les films à l'affiche, Les Trois Fantastiques, un film français réalisé par Michael Dietcher, sorti le 15 mai 2024. Il met notamment en scène Emmanuel Berco et Raphaël Quénard. Max, Vivian et Tom, trois amis inséparables, terminent leur année de quatrième avec un rêve en tête. Partir ensemble en colonie de vacances. Cependant, ils n'ont pas assez d'argent pour se payer ce voyage. Véritable tragédie grecque, Les Trois Fantastiques narrent l'histoire de trois adolescents qui vont sombrer à cause du frère de l'un d'eux dans un drame morbide. Les Trois Fantastiques, un premier film convaincant sur la fin de l'innocence. Film à l'affiche, à retrouver sur le site web de cinéfranco.com. Affûtée, abrasive, tout en mouvement accidenté, la caméra les suit sur le chemin escarpé de l'initiation de la vie, sans les juger, ni les regarder de haut. Toujours à la bonne hauteur de ces destins trop tôt malmenés. Mois de février, mois de l'histoire des Noirs sur CUT 89,5 FM. L'héritage et le leadership des personnes noires, célébrer l'histoire canadienne et inspirer les générations futures. C'est la thématique 2025 du mois de l'histoire des Noirs cette année. Le mois de février nous donne la chance de célébrer la diversité et les réalisations des personnes noires au Canada. Cependant, c'est aussi l'occasion de réfléchir à l'histoire douloureuse du pays et aux défis particuliers auxquels les Noirs sont encore confrontés dans leur vie quotidienne, tels que les barrières systémiques, le racisme et la discrimination. Soyez des nôtres tout au long du mois de février pour des éditions inédites. Visite à vous couper le souffle au dernier festival Vaudou au Bénin. Témoignages, rencontres, découvertes littéraires, le calendrier de nos partenaires et le tout assaisonné de rythme des musiques traditionnelles du continent et des Antilles. En partenariat avec la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, Québec, mois de l'histoire des Noirs, Gatineau, Sophie Franc, Niagara, Wallonne, mois du créole à Montréal, le Kepka, France 24, TV5 Monde, RFI. Le mois de l'histoire des Noirs, 2025, à découvrir absolument sur popourrichaud.com ou www.cut.fm. CUTFM, toute la diversité du monde sur votre fréquence.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence. Quoi de neuf? Les cafés du Créfaux. Eh oui, nos amis du Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne, le Créfaux, ont le plaisir de vous présenter la cinquième saison. Quoi de neuf, les cafés du Créfaux. Avec la soif d'apprendre, un membre du Créfaux s'assied avec universitaires, artistes ou étudiants pour aborder des enjeux de société de petite ou de grande taille. Cette cinquième saison est animée par Amal Madibo, professeure agrégée et directrice adjointe du département de justice sociale en éducation à l'Institut d'études pédagogiques en éducation de l'Université de Toronto. Ses recherches se penchent sur les études noires, la francophonie, l'immigration et la race et l'antiracisme en Afrique. Abonnez-vous au podcast « Quoi de neuf, les cafés du Créfaux » et c'est gratuit. Plus d'infos sur oisy.utoronto.ca/fr/crefo ou tout simplement popourichaud.com. Quoi de neuf à Les Cafés du Crefo? Une ouverture sur le monde. En voici un extrait du dernier épisode.
Dans cet épisode, Marie-Paul Lurie, directrice par intérim du Crefo, rencontre Emmanuel Le Pichon, professeur agrégé à l'Université de Toronto.
Et il a dit que c'est exactement le contraire de ce que l'école devrait faire. L'école devrait ajouter, pas retirer. Et c'est exactement ça. Alors, toute la question est de savoir comment ajouter, tout en tenant compte des limites des enseignants.
Bienvenue à Quoi de neuf.
Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutif, la langue vie, révolte, danse. Et le livre des livres et livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est à rempart à la nouvelle langue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Bonjour chers auditrices, chers auditeurs, où que vous soyez dans le monde. DJ Devera, Eric Kader et nos nombreux correspondants et partenaires sont très heureux de vous retrouver pour la 4e émission de cette nouvelle année. Un immense merci à tous nos partenaires de ce dimanche. Batuki Music Society et l'Alliance Française de Toronto qui présentent le groupe Coup de cœur de Montréal le samedi 8 février au Théâtre Spadina à 20h. Ce concert spécial en l'honneur du mois de l'histoire des Noirs présente un rassemblement exceptionnel de chanteurs et d'instrumentistes. Préparez-vous pour une soirée inoubliable. Coup de cœur de Montréal le samedi 8 février à l'Alliance Française, organisé par Batuki Music Society. Parmi les invités, les musiciens sénégalais Sadio Sissoko à la kora, aux percussions et au chant, le guitariste Hassan Sek, le chanteur Sendina Ndaye, le chanteur et guitariste Ang Lam, le joueur de tama Pape Ndiaye et le bassiste Carlo Biri. Un collectif de stars interprétant des chansons qui définissent les variations régionales, les styles et les mélodies des formes musicales traditionnelles et populaires d'Afrique de l'Ouest. Deux paires de billets disponibles pour les auditeurs de Popourri Show. Tous les détails sur popourrichaud.com ou encore Batuki Music Society. Merci à nos amis de Batuki Music Society. 16e édition du Festival Ciné Franco Jeunesse, qui revient en force du 24 février au 7 mars 2025 au Cineplex Cinema Empress Walk, 5095 rue Yonge à Toronto. Des films traitant de sujets d'actualité brûlants à hauteur d'enfants et d'ados. Chaque dimanche, en partenariat avec Ciné Franco et nos médias partenaires, nous vous donnerons un avant-goût de la belle programmation de Ciné Franco Jeunesse 2025. Réservez votre place en ligne pour voir un des films à l'affiche en visitant cinéfranco.com ou popourrichaud.com. Et Francophonie en fête est fière de nous présenter la 4e édition de Bonjour Printemps 2025, une célébration culturelle vibrante à Toronto, avec deux spectacles exceptionnels, mettant en vedette des talents francophones de renommée internationale, Catherine Levac et Le Vent du Nord, un groupe folklorique. Tirage au sort de deux paires de billets chaque dimanche. Allez, j'attends votre message à popourri@cut.fm. Plus d'infos sur francophonieenfête.com ou popourrichaud.com. Et une première sur cette antenne, collaboration spéciale entre la Tunisie et CUTFM. Toufik Abayeb, PDG, journaliste du magazine en ligne Leaders, est heureux de nous présenter Transculturalisme et Francophonie, le dernier ouvrage de notre ami de toujours, Eddy Bouraoui, professeur émérite d'université, essayiste, poète, romancier, écrivain prolifique. transculturalisme et francophonie. Denis Bourraoui, à retrouver sur notre site web popourishow.com. Le transculturalisme est chez lui aussi bien une théorie qu'une pratique, où il prend la force d'un véritable credo. Restez toujours digne, humble, simple et souriant. Professeur Eddie Bourraoui n'a livré ses états d'âme qu'au fil de son œuvre, palpitante, remuante, profonde. Cet ouvrage nous en offre une belle illustration. Tricontinental, trilingue et transculturel, Eddie Bourraoui, qui vit à Toronto depuis plus de 65 ans et il ne cesse de nous interpeller. Lui qui a surtout enseigné à l'Université York en Ontario et a voyagé, côtoyé les francophonies du monde, il a donné à la francophonie une expression plurielle et mis en exergue ses auteurs jadis très peu connus. Transculturalisme et francophonie d'Eddie Bourraoui aux éditions Leaders sera au cœur de nos débats lors du mois de la francophonie en mars sur CUT-FM. Plus de détails sur transculturalisme et francophonie et Toufik Abayeb, PDG du magazine en ligne Leaders, à retrouver sur popourishow.com. Et dans cette deuxième heure, nous poursuivrons notre voyage au carnaval de la Guadeloupe. Nous ferons escale chez Ciné Franco Jeunesse avec un très beau film à l'affiche, La Petite et le Vieux. Un film émouvant à découvrir absolument. Au prochain festival de Ciné Franco, allez sur le site cinéfranco.com. Nous aurons en exclusivité The French Collection, une nouvelle chronique 100% chansons françaises, chansons francophones. Et parmi les buzz à cette semaine, la proportion d'entreprises francophones a baissé en Ontario. Un article à lire, à retrouver dans le journal Le Devoir de cette semaine. Avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, les journalistes et les maisons de presse se demandent ce que l'avenir réserve au journalisme. Si j'ai le temps, je vous parle de ces résultats d'une étude sur la désinformation et les dangers de certains réseaux sociaux tels que la plateforme X d'Elon Musk. C'est tout depuis son salut à la Hitler qui a soulevé un tollé cette semaine. Plusieurs pays européens d'ailleurs discutent en coulisses d'une stratégie pour limiter les dégâts de ce pyromane qui ne cesse de propager la haine et les fausses informations. Et cette semaine, justement, Trump a aboli plusieurs programmes. Il a suspendu les employés des programmes de diversité en les mettant en congé forcé. Il a également lancé une charge violente contre l'évêque de Washington pour son sermon en faveur des migrants et des transgenres. Eh oui, dans un instant, le journal d'Haïti et des Amériques en parle de ce Donald Trump qui a également mis fin au programme humanitaire spécifiquement conçu pour les migrants en provenance d'Haïti, de Cuba, de Nicaragua et du Venezuela. Pour Godston Pierre, directeur de l'agence Interpresse, c'est un jour triste pour des milliers d'Haïtiens qui comptaient sur ce programme appelé aussi programme Biden comme moyen pour fuir Haïti, pays qui est toujours en guerre. Eh oui, pour vous réchauffer un peu le cœur, madame, monsieur, vous réchauffer l'esprit, j'offre un repas pour deux au restaurant Local 1794, Local 1794, sur la rue Danforth, entre Coxwell et Woodbine. Allez, j'offre même $200 à la 38e personne qui m'envoie un message à popourri@cut.fm. Repas d'une valeur de $200. $200 au Local 1794 on the Danforth. Allez, place à RFI. Bon appétit, si vous êtes à table.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causé Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Merci d'écouter RFI, 8h à Washington et à Port-au-Prince, il est 13h en temps universel. Dernière partie d'RFI Midi. Dans quelques minutes, nous irons à la rencontre de migrants à la frontière mexicaine. Désespérés après les annonces de Donald Trump dès le premier jour de son mandat, nous serons aussi en ligne avec notre envoyé spécial à Los Angeles qui a rencontré des travailleurs étrangers et avec le directeur de l'agence haïtienne Alter Press à Port-au-Prince où l'on s'inquiète de la fin annoncée du programme humanitaire de Joe Biden concernant l'immigration des Haïtiens. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, Benoît Ferrand, vous nous parlerez du leader du mouvement RPRAC de retour devant les juges aujourd'hui en Martinique.
Le 11 novembre dernier, Rodrigue Petitot avait forcé la porte, entre guillemets, de la résidence privée du préfet. Nous entendrons tout à l'heure la secrétaire de son mouvement, le RPRAC.
À tout à l'heure. Cette avalanche de décrets aux États-Unis, elle pose un certain nombre de questions, des questions légales en ce qui concerne leur application, Anne Verdaguer, et la presse américaine s'en fait l'écho aujourd'hui.
Oui, car si le message, lui, est très clair, dit le New York Times, certains de ces décrets anti-immigration feront face à de gros défis d'un point de vue légal et pourraient être compliqués, voire impossibles à mettre en œuvre. Pour exemple, l'état d'urgence décrété à la frontière mexicaine et le rôle de l'armée qui pourrait être sollicité pour autre chose qu'un simple maintien de l'ordre. Car l'on peut lire dans ce décret que l'armée aidera à refermer les frontières, maintenir la souveraineté, l'intégrité du territoire et la sécurité des États-Unis en repoussant les différentes formes d'invasion. Cela pourrait entrer en opposition avec une loi datant de 1870, explique le quotidien, appelée le Posse Comitatus Act, qui limite l'usage des troupes fédérales à des fins de maintien de l'ordre à l'intérieur des États-Unis. Le New York Times fait allusion également à la volonté de Donald Trump de mettre fin aux droits du sol. Cela viendrait contredire le 14e amendement, vieux de 157 ans. Et d'ailleurs, dans les heures qui ont suivi cette annonce, explique le New York Times, l'Union des libertés civiles américaines a déjà annoncé sa volonté d'intenter un procès.
Le retour de Donald Trump aux affaires, redouté aussi par plusieurs pays voisins des États-Unis sur le continent et notamment en Haïti, Anne.
Oui, c'est-à-dire dans le Nouvelliste, il avait fait des Haïtiens installés à Springfield dans l'Ohio les emblèmes de l'immigration délétère, rappelle Franz Duval, et le président américain avait à plusieurs reprises insulté ceux qui habitent un sale trou, pour employer un euphémisme, et sont porteurs du sida. Si l'on ignore si Donald Trump va se pencher sur les affaires haïtiennes, autrement que via son programme restrictif sur l'immigration, poursuit l'éditorialiste, il a déjà annoncé la couleur. Le programme Humanitarian Parole, qui bénéficie à de nombreux Haïtiens, a pris fin ce jour même, quelques heures après sa prestation de serment. Le président Donald Trump peut nous enfoncer, nous laisser cuire dans notre jus ou nous ignorer. Dans tous les cas, nous avons des devoirs à faire, conclut le Nouvelliste.
On va continuer à lire la presse haïtienne. Nous sommes en ligne avec notre confrère Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. Bonjour Godson.
Bonjour Anne.
Donald Trump annonce donc la fin du programme Humanitarian Parole pour 4 pays, dont Haïti. Et ça, évidemment, c'est une décision qui est très importante pour les Haïtiens.
Et oui, ça va faire des vagues en Haïti et dans les communautés haïtiennes aux États-Unis. Un jour triste, en effet, pour des milliers d'Haïtiennes et d'Haïtiens qui comptaient sur ce programme, appelé encore programme Biden, comme moyen pour fuir le pays, un pays instable où l'insécurité et la violence ainsi que leurs corollaires sont devenus des problèmes cuisants. C'était une voie pour trouver refuge aux États-Unis et tenter de se créer un autre avenir. C'est certainement un coup dur pour eux et c'est aussi l'incertitude pour ceux-là qui ont déjà bénéficié du programme temporaire. Ils ne savent pas ce que sera leur sort, alors que le nouveau président américain brandit la menace de centaines de milliers d'expulsions.
Voilà, il y a aussi des expulsions qui s'annoncent massives, c'est ce qu'il avait promis en tout cas pendant sa campagne. Eh bien, à propos de l'immigration, justement, une dizaine de pays d'Amérique latine s'engagent à travailler avec Haïti et plus généralement à soutenir la stabilité du pays, Godson.
La déclaration commune de ces pays d'Amérique latine a été adoptée à l'issue d'un sommet sur la mobilité humaine le long de la route nord du continent, un sommet tenu au Mexique à la veille de la prise de fonction de Trump, un sommet présidé aussi par la chef de l'État mexicaine, Claudia Sheinbaum, déclaration paraphée par le Mexique, le Brésil, le Venezuela, la Colombie, Cuba, le Salvador, le Guatemala, le Honduras et Belize. Ces gouvernements renouvellent leur volonté de contribuer de manière déterminée en fonction des capacités de chaque pays à accompagner Haïti dans ses efforts pour rétablir un environnement de sécurité humaine dans le pays.
Voilà, parmi les pays signataires de cette déclaration adressée à Haïti, il y a la Colombie dont le président doit se rendre à Jacmel demain.
La visite du président Gustavo Petro à Jacmel s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre Haïti et la Colombie, couvrant les domaines de la sécurité, de l'assistance humanitaire, du commerce et de l'éducation. Pourquoi Jacmel? Eh bien, selon les historiens, c'est là que le libérateur latino-américain Francisco de Miranda créa le drapeau de la libération d'une grande partie du continent sud-américain en ajoutant le jaune au bicolore bleu et rouge d'Haïti. Ce drapeau restera par la suite l'étendard de trois pays, la Colombie, l'Équateur et le Venezuela.
Merci Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. On vous retrouve mardi prochain sur cette antenne et d'ici là, on peut vous lire sur alterpress.org.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de la première et on vous retrouve Benoît Ferrand pour parler d'abord de la Martinique où le leader du RPRAC est de retour devant les juges aujourd'hui.
En détention provisoire depuis un mois et demi, Rodrigue Petitot comparé devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France pour menaces et intimidations sur des agents publics, violation de domicile, rébellion, incitation à la rébellion, n'en jetez plus. Le 11 novembre dernier, il avait, entre guillemets, forcé la porte de la résidence privée du préfet. Aude Goussard, la secrétaire de son mouvement, le RPRAC, était ce matin l'invitée de la première Martinique. Elle répondait aux questions de Denis Adnelouvé.
C'est un raccourci rapide que de faire à chaque fois la relation entre les dégradations et le RPRAC. Je pense que personne n'arrive encore à admettre que le RPRAC avait prévenu dès juillet par une injonction que ça allait mal au pays. Nous sommes des hommes et des femmes de terrain au RPRAC et nous sentions bien que la cocotte n'allait pas tarder à exploser. Et plutôt que de juger positivement notre injonction, elle a été perçue comme une provocation et un appel à la violence. Aujourd'hui, je pense que quand on regarde les critères sociaux et l'ensemble des problématiques qui nous touchent, on a une société qui n'est plus au bord de l'implosion, mais qui implose. Et plutôt que de nous prendre en compte, on a préféré nous stigmatiser comme si le RPRAC, qui a moins de 2 ans d'existence, était responsable de tous les maux de la société de la Martinique. Donne-nous l'âge, pas ni problème, nous ni dollage.
Le dollar, je vous aurais compris. Aude Goussard, secrétaire du RPRAC, direction la Guadeloupe avec un tout autre sujet. Le ras-le-bol, il faut dire les choses comme elles sont, du maire de la commune de Sainte-Rose, dans le nord de la Basse-Terre, commune où les coupures d'eau seraient récurrentes. Écoutez la colère d'Adrien Baron au micro de la première.
2 usines sur 3 dysfonctionnent, vraisemblablement parce que elles manquent d'entretien. Et alors moi j'ai interrogé les techniciens qui sont pas en mesure de me donner tous les éléments, mais apparemment il semblerait que le travail ne serait pas fait pour entretenir ces usines. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui vous mettez en danger la vie des gens en ne leur donnant pas d'eau. Vous avez des malades, vous avez des handicapés, vous avez des personnes qui sont dialysées. On ne leur donne pas d'eau simplement parce qu'on ne change pas quelques pièces dans une machine alors que les personnes qui sont en charge de l'entretenir vous disent depuis des mois, voire des années, qu'il y a nécessité de faire un changement. Ce n'est pas acceptable. Je ne sais pas si aujourd'hui je ne vais pas prendre une décision de porter plainte contre le SMGAG pour mise en danger de la vie d'autrui. Parce que c'est inacceptable aujourd'hui. On ne peut pas continuer comme ça.
SMGEAG, syndicat mixte de gestion et d'assainissement de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe. Bon après-midi Anne. À demain.
À demain Benoît Ferrand. Merci à tous d'être avec nous.
Eh oui, Popori Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPCA, et le Mois du créole à Montréal pour les 2 prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Eh oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPCA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort merci en pile à Kepka et le mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourichaud.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
Tout le compas. Tous les compas. Qu'ils soient directs ou nouvelle génération sont sur Tropic Compas, la web radio de Tropic FM. L'histoire de la plus populaire des musiques haïtiennes est sur Tropic Compas.
Écoutez cette web radio sur notre site www.tropicfm.com, sur iPhone, iPad et Android, en téléchargeant gratuitement l'application sur Apple Store.
Carnaval 2025. Ah, oubliez l'hiver, le froid. Pour vous dépayser un peu, je vous invite, madame, monsieur, à me suivre aux festivités carnavalesques. Chaque dimanche jusqu'au mercredi décembre, jour où l'on enterre Vaval, roi du carnaval des Antilles. Le grand lancement et les défilés spectaculaires ont eu lieu le 5 janvier dernier dans plusieurs îles des Antilles, notamment en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin. Si le carnaval se veut comme un temps de fête, il permet également à la population de passer des messages politiques, souvent sous l'angle de la dérision. Le thème du carnaval cette année au Lamantin Martinique est résilience. Chaque dimanche, un mot, une phrase, un invité, un reportage pour vous expliquer le concept du carnaval des Antilles. Bon carnaval 2025.
Les fouets annoncent l'arrivée des groupes Apo. Le déboulé est devenu la marque de fabrique de ces groupes. Contrairement aux groupes à caisse claire qui pratiquent des parades et des concours notés sur le tapis rouge, les groupes Apo avancent par centaines, à un rythme rapide et saccadé, au son des tambours chants, des chachas et des congs de lambi. Un défilé destiné à effrayer, à bousculer l'ordre établi, mais aussi à transmettre la culture héritée des ancêtres.
Je ne vais jamais quitter ma culture, ma Guadeloupe, mon carnaval, ou qui que ce soit. Ah non.
En février, vivez le carnaval en live avec la Fédé et Orange. Samedi 4, la parade nocturne à Petit-Bourg. Dimanche 5, la parade de Pointe-Noire. Dimanche 12, la parade chaud bouillante à Bouillante. Lundi gras, la parade nocturne lumineuse. Mardi gras, la giga parade winner. Le carnaval en live, c'est avec la ville de Petit-Bourg, la ville de Pointe-Noire, la ville de Bouillante, la ville de Basse-Terre, McDonald's, Peugeot, Eurorépar, tvcarnaval.fr et tv97.net.
Strictement encadré pour cause de pandémie depuis 2 ans, le carnaval de Guadeloupe est d'ordinaire un événement incontournable de l'archipel. De janvier à mars, les Guadeloupéens ont pris l'habitude de vivre au rythme des parades, animés par des dizaines de groupes bénévoles. Pour tous les carnavaliers, c'est bien souvent la consécration d'une année de travail. Quelques jours avant le clou du spectacle, les membres du groupe Wakashire Band cherchent l'inspiration pour finaliser leur dernier costume. Ils tentent de dénicher la perle rare.
Si on ressort sur le motif.
Avec du blanc, carrément, de l'argenté.
On va essayer avec le blanc pour voir.
Les modèles ne sont dévoilés aux danseuses que dans les derniers jours.
Comme ça, ça peut faire.
Vous avez peur qu'on vous vole vos idées?
Ça arrive.
Le tissu.
Ça arrive, le tissu.
Oui.
On a déjà eu des cas, en fait, des réservations de tissu. Et après, qu'on retrouve en fait un autre groupe avec le même tissu que nous. Et on n'aime pas trop ça.
Donc c'est toujours une surprise, même pour vous.
Oui, c'est une surprise. Oui. Et puis, on lui fait confiance. On sait qu'on ne sera pas moche dans la pluie.
Le prix.
Alors,
Ce sont les danseuses qui payent leurs costumes.
Voilà, voilà.
Alors il faut trouver le bon compromis entre le coût et le design.
En moyenne, on essaie de ne pas dépenser 150 euros, on va dire. Ouais, on va prendre ce modèle.
Il ne reste plus que 3 jours pour finaliser les costumes. Et c'est le chapeau qui demande à Elodie le plus de travail. Pour chaque défilé, le groupe décide d'un thème. Cette année, celui de Gosier sera sucré.
Il y a des bonbons ici, là. On en aura sur le colis aussi. Et nous serons les friandises.
Vous allez être prête?
On va trouver une solution. Des nuits blanches, mais ça va être fait.
Pour le groupe Cassica aussi, la nuit promet d'être longue.
Attention !
La chorégraphe règle les derniers détails. L'ambiance est tendue. Elle a dû changer une partie des pas à la dernière minute et pour le moment, ses troupes ne suivent pas.
C'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout même. Non, non. On peut pas si mon mouka garder des doigts et capou en long monde, mais qui aurait fait ça?
Il faut juste rectifier quelques petits trucs. Mais sinon, c'est bon, c'est dans la poche.
Ça rigole pas là, toi. Ah c'est non, non. Des armées, là.
Oui, 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 toujours. Toujours. Moi, quand je fais mon boulot, c'est à fond. Ah oui, toujours.
La soirée est loin d'être terminée. Car demain, ils doivent défiler à Gosier. Une parade qui ne va pas être...
Marianne, c'est normal peut-être.
...de tout repos. Aujourd'hui, c'est le jour qu'il ne faut pas rater. 40 groupes vont s'affronter dans les rues de Gosier. Une occasion inespérée pour les vacanciers de rencontrer les carnavaliers.
Les couleurs, le rythme, la joie de vivre des gens tous optimistes, c'est fantastique.
Ça en donne des frissons.
Voilà.
Ouais, nous sommes bouleversés.
16h, c'est le départ. Elodie et Olivier ont terminé les parures durant la nuit.
Alors ça y est, le costume est prêt.
On fait fini.
J'attaque, là, vous allez gagner.
On l'espère.
Nous sommes loin des carnavals des années 60, ou même des années 80, où les musiciens et les danseurs improvisaient des costumes avec 3 bouts de ficelle. Au fil des années, les défilés sont devenus de plus en plus sophistiqués. 18h, la nuit tombe doucement sur Gosier. Et c'est au tour d'Elodie et des danseuses de son groupe de briller sous toutes les coutures. L'arrivée sur le tapis rouge, c'est le moment que redoutent les groupes. Des mois de travail s'y jouent. Ils ont 2 minutes 30 pour éblouir le jury. Les nombreux prix honorent les groupes et les communes dont ils font partie. En fin de carnaval, les récompenses peuvent se chiffrer en milliers d'euros.
Vous avez la première place, vous pensez avoir
un... On espère, on a tout fait pour et on a beaucoup travaillé.
Donc,
oui, oui, oui. Bye bye.
Classica de KBCB, allez, s'il vous plaît. Gosier, Gosier, on les encourage.
C'est maintenant au tour du groupe de Nathalie, la chorégraphe, de passer devant la petite dizaine de membres du jury. Ces passionnés jettent leur dernière force dans la bataille. En quelques minutes, tout est scruté. La musique, les costumes, la danse.
C'est bien passé.
Tout. Sourire, motivation, ambiance, tout.
Waka Shireband et Cassica finiront respectivement 3e et 4e du concours. Pour ces passionnés, il faudra désormais attendre l'année prochaine pour tenter à nouveau de décrocher la première place.
Proudly student and listener supported community radio. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
France 24. 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur France24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Potpourri Show et priseparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur potpourrishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur priseparole.ca. Potpourri Show, en partenariat avec Français du Monde, Toronto, a le plaisir de vous présenter Français du Monde, un nouveau rendez-vous d'actualité pour les Français d'ici et d'ailleurs. Français du Monde sur CUT 89,5 FM. Opportunités, bons plans, conseils pratiques, témoignages et les galères. Merci aux Français du Monde, Toronto.
France Inter. Le 5-7.
Clara Luciani est dans la playlist du 5-7 ce matin. Bonjour Marion Guilbeault.
Bonjour Mathilde.
La chanteuse a sorti un nouvel album, Mon Sang. C'est une déclaration d'amour à la pop et à la famille.
On l'avait découverte amoureuse blessée, prête à balancer une grenade sur la jante masculine dans Sainte-Victoire. On l'avait suivie sur les pistes de danse avec le disco Salvateur de cœur. On la retrouve maman vibrante d'un petit garçon en plein questionnement existentiel. Mon sang, c'est le troisième album de Clara Luciani et c'est le moment de faire le point sur le temps qui passe, sur son enfance, sur la place de la famille, celle dont on hérite et celle qu'on se choisit, sur la maternité. Ce n'est pas pour rien qu'elle est née sous le signe du cancer.
Le sang, tout sang. Tu le sens déjà, mon enfant. Au chaud de ton berceau, nous sommes le sang.
Mon sang, une très très belle chanson sur la transmission avec une tonalité plus grave, comme si son nouveau rôle de maman et la trentaine avait resserré la focale sur ce qui est essentiel. C'est un album qui a été écrit pendant sa grossesse, en collaboration avec son mari, Alex Caprano, c'est le leader de Franz Ferdinand. Il est toujours produit par son complice Sage, comme une garde rapprochée pour travailler en confiance. Ensemble, ils ont réalisé leur rêve d'un disque très pop, très orchestré, avec des cordes sentimentales, des clavecins, un disque sous influence McCartney, leur idole commune.
Et si l'envie te prenait de me rejoindre de l'autre côté, de choisir la vie pour de bon avec ce qu'elle a de mauvais, n'hésite jamais et ne perds pas de temps. Aux âmes blessées, je pardonne facilement.
Un titre qu'on croirait enregistré à Abbey Road, maman d'accord, mais Clara Luciani reste toujours une amoureuse de l'amour, même si elle n'est plus dupe sur le sujet, voire parfois ambivalente. Ses déclarations sont toujours aussi lyriques. Clara Luciani qu'on retrouvera bientôt sur le grand écran dans Jolie Jolie, une comédie musicale de Diastème avec des chansons signées Alex Baupin. Elle y tiendra le rôle d'une jeune actrice qui monte et nul doute qu'elle y fera des étincelles.
T'es qu'un grain de poussière sur cette terre. Si on dézoomait le planisphère, je te tiendrai entre mes doigts. Je te tiendrai entre mes doigts. Je ne sais pas si l'histoire retiendra ton nom, ton profil, si tu écriras un livre ou un opéra. Un livre ou un opéra. Mais t'es tout pour t'es tout pour moi, t'es tout pour moi, t'es tout pour moi. chérie, ça s'observe depuis la stratosphère. C'est une fois par millénaire, c'est qu'une fois par millénaire.
Pour moi, une des chansons phares de Mon sang, le nouvel album de Clara Luciani en partenariat avec France Inter.
Elle sera en tournée marathon dès le 14 décembre à Nîmes, les 17 et 18 à l'Olympia à Paris. Ça recommence le 18 janvier 2025 à Amiens avec une tournée des Zénith et deux accords Arena à Paris, les 6 et 7 mars 2025. Et le titre à titre de l'album de Clara Luciani est disponible à la réécoute sur l'application Radio France.
Merci Marion Guilbault.
Marcel Lynn, fondatrice de Ciné Franco, nous invite à nous réchauffer le cœur avec une très belle programmation Ciné Franco Jeunesse, édition 2025, du 24 février au 7 mars.
Là, je vais pas m'entendre que c'est toi que ça tire.
Ok.
On va chercher Monsieur Roger à côté.
Viens ici, nous m'en à Bidon Javel.
Maudit hostiviage de Gériboire, de Calice, d'hostie de Saint-Simonac, ça se peut-tu, un enfant de même? Quand t'as une tête de mort, une bouteille, tu touches pas à ça, ta crème.
C'est
un
montage.
Roger, c'est gros occupé de grand-papa quand il était au centre.
Ça, on est pas bien, bien occupé. Il est mort.
Tu trouves une nouvelle job, finalement?
Un café 2-2,
et moi, un grilled cheese bacon.
C'est qui qui a commandé un grilled cheese, la petite partie, là?
Moi! T'es dans ma marre, ma fille.
Pourquoi tu fais passer les journaux?
Parce que je veux que mon père arrête de travailler. Comme ça, il va être heureux.
Au combat et à la victoire!
Mais l'argent fait pas le bonheur.
C'est juste les pauvres qui disent ça, maman.
Parce que tu penses qu'on est pauvres?
On peut pas dire qu'on est riche.
Oui, tu fais de fort. Fais ce job-là.
Ça donne bien. Je suis comme la petite mousquetaire. Et bien courageuse, tu sais, comme moi.
J'ai gagné!
Je vais jusqu'en bas de la côte.
Non. Pas de la côte, c'est un autre monde.
Essaye de pas finir toutes tes phrases par mon petit nom.
C'est à cause de Roger.
Oh, mêle-moi pas là-dedans.
C'est vrai ce que ton père dit, puis il est supposé croire que tout le monde est beau et tout le monde est fin. Parce que le bonheur, ça se force pas si quelqu'un qui en veut pas.
C'est ça que ça sert, Léon. À nous motiver, à être comme nous.
Ma mère aime pas bien ben gros le monde qui sac comme toi.
Ben, c'est ta mère, ta basse-là, que c'est pas la mienne.
Et oui, c'était la bande-annonce du film à l'affiche à Ciné Franco Jeunesse, édition 2025. Le film « La petite et le vieux » mettant en vedette Gilles Doroy, Juliette Marucha, Marilyn Castonguay et Vincent Guillaume Otis. Elle est pleine d'espoir, de volonté, de témérité. Lui ne voit vraiment pas le monde de la même façon. Pourtant, leur rencontre les fera assurément grandir. Ne manquez pas la touchante histoire de La petite et le vieux, une comédie dramatique de Patrice Sauvé qui nous transporte à Limoilou, Québec, dans les années 1980. Une fillette à l'imagination fertile se lie d'amitié avec son nouveau voisin, un vieil homme bourru. Allez vite sur le site cinéfranco.com et réservez vos billets. Et pour vous donner un avant-goût, j'ai déniché une petite entrevue avec Gilles Doroy et Juliette Marucha. La petite et le vieux, à voir absolument, Ciné Franco Jeunesse édition 2025.
Viens ici, nous m'en sors à Bidon Javel.
Roger Sauvé, c'est un vieux malcommode, pas très propre,
vulgaire, qui sac beaucoup.
Maudit hostie vierge de Gériboire, de Calice, d'hostie de Saint-Simonac.
Mais qui connaît beaucoup de choses, qui est extrêmement serviable. Peut-être ira-t-il jusqu'à sauver la vie de quelqu'un.
Joe est vraiment empathique, très, très persévérante.
Je suis comme la petite mousquetaire. Elle est bien courageuse, tu sais, comme moi.
Tourner avec Juliette, ça m'inquiétait au début, parce que je me disais, bon, 12 ans, il va falloir que je parle de Taylor Swift à tous les jours, ça va être insupportable. Zéro, man. Elle arrive préparée, puis elle est capable de changer ce qu'elle fait, de se revirer sur une scène. Il y a bien des acteurs adultes qui sont pas capables de faire ça.
Je pense qu'il faudra aller voir la petite interview, parce que c'est comme un peu ce que le monde a besoin d'entendre.
Tout le monde est angoissé. Tout le monde se demande ce qui va arriver. Ça, ce film-là, tu vas sortir de là en disant, Caroline, ça peut être dur la vie, mais elle vaut la peine d'être vécue.
Comme toi.
Ben, c'est ta mère, ta basse-lac, c'est pas la mienne.
Au salaire, Tipi tombé, il a coulé du mot poche. Même on savait qu'il n'y a pas mon bon sou. Alors, ça là, à bout tout ça qui coumou. Bonne cassonne, vous pouvez décrocher, passe-moi trop fauché, faire un petit bouger, peut-être été à casse. Manger cassoulet qui couac, passe-moi madame, manger mon sous-maqué. Vous faites sauçon qui s'enchivé. À présent, mot bloqué, et mot poche crévée, mon lamo bloqué, pas qu'un sous-maqué. Pas dis-moi bonjour, non, mon pas qu'un sous-maqué, mon courant t'aime. Bébé pas mini ouais mon l'homme pas gain dinero mon compo Tokyo mon café zéro a dit mon bonjour l'homme pas gain sous marqué mon courant tebe courant bébé pas mini ouais mon l'homme pas gain dinero mon compo Tokyo.
Et oui, nous sommes arrivés presque à la fin de notre voyage intercontinental. J'espère que cela vous a plu. Quelques petites nouvelles rapides. Les conseils scolaires de langue française dénoncent l'approche adoptée par le gouvernement de l'Ontario. Dans une lettre à la ministre de l'Éducation, Jill Dunlop, datée du 22 novembre et dont Radio-Canada a obtenu copie, les représentants des conseils accusent la province d'avoir mandaté ses procureurs de déposer et de signifier des documents uniquement en anglais. 2025, incroyable d'entendre cette nouvelle. La PDG de l'agence responsable des soins à domicile en Ontario, congédiée selon une source de CBC. Des problèmes d'approvisionnement entourent l'organisme depuis plusieurs mois. Et près de 40 000 Torontois parlent français tous les jours, un nombre qui continuera d'augmenter d'ici 2050. La croissance de la francophonie torontoise dans les prochaines décennies repose fort probablement sur l'arrivée des migrants africains, pense Richard Marcoux, directeur de l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone à l'Université Laval. Gaïda Hassan, professeure au département de psychologie de l'UQAM et fondatrice du réseau des praticiens canadiens en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Et oui, elle et son équipe ont rendu public la semaine dernière une revue systématique et une méta-analyse d'une cinquantaine d'études sur les impacts de la haine en ligne et hors ligne. Une sorte de radiographie de la haine dont les résultats sont très très inquiétants. Et oui, le fait d'être exposé à la haine en ligne augmente les symptômes dépressifs et aussi associé à une augmentation des symptômes anxieux. Il est aussi lié à une diminution de la satisfaction avec la vie et à une augmentation de la peur sociale, deux indices de détresse très importants en santé mentale. Et je vous rappelle, considérant que sous Elon Musk, X, la plateforme numérique, est devenue une machine à manipulation de l'opinion publique qui amplifie la toxicité. Et oui, des milliers d'abonnés quittent la plateforme numérique X pour s'immigrer ailleurs sur d'autres plateformes. D'ailleurs, notre émission est désormais sur Blue Sky, une façon graduelle de quitter la plateforme X. Vous retrouverez les détails sur notre page popourishow.com et vous n'avez qu'à cliquer sur Blue Sky pour vous y abonner. Et on me fait signe à Toronto, je dois vous laisser malheureusement. Je remercie du fond du cœur Ciné Franco, Batuki Music Society, Francophonie en fait. Bonjour printemps. Ah oui, à ne pas oublier, nous avons des billets pour vous de la communication et les éditions Prise de Parole. Promis, la semaine prochaine, je ferai état de ces nouveautés littéraires. Merci mille fois. Ah oui, vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les titres sur notre site popourishow.com. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger nos émissions en allant sur notre site popourishow.com. Mille merci à tous les partenaires qui se sont inscrits pour le mois de l'histoire des Noirs et le mois de la francophonie édition 2025. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à notre concours d'aujourd'hui. Restaurant local à 1794-1794 rue Danforth. Merci à nos amis haïtiens qui sont nombreux à nous suivre chaque dimanche. Allez, bon dimanche, bonne semaine, bon carnaval. Que la force soit avec vous. Je rends l'antenne à Hart House Studio, Université de Toronto. Ciao, ciao, ciao.
DJ Federal, qu'a kill pussy boy.
Tout bagay, parce que nan sa dit tout bagay, si tout le mauvais bagay. Manquez à pour nous.
Zigi, il s'appelle Zigi.
Ça passe ouvert, nous les aïe.